Alors aujourd'hui, donc du coup, moi j'aimerais. Déjà, je suis content d'être parmi vous. Voilà, ça fait plaisir de revoir toutes les têtes que j'avais vues l'année dernière. Et donc, du coup, le sujet que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est Choisis la vie. Choisis la vie, alors, c'est un sujet qui est extrêmement large. Clairement, on pourrait partir dans beaucoup de directions. Et c'est un sujet que j'ai tous les jours devant moi. Je vous ai ramené ce petit halo lumineux qui se trouve dans ma cuisine, sur mon plan de travail, et qui chaque jour me rappelle que ce verset est là. Et il me dit tous les jours, choisis la vie plusieurs fois par jour. Alors choisis la vie, comme ça, quand on le dit comme ça, clairement, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, si ça reste ce petit halo lumineux, seulement de ces versets qui, comme ça, scintillent dans nos vies. Et il y a, pour moi, choisi la vie, il y a voilà, des versets comme ça dont on se rappelle et dont on aime bien se rappeler, hein, qu'on cite régulièrement le dimanche. Ces versets ont une importance à partir du moment où on décide de creuser ce qu'ils veulent dire, ce qu'il y a derrière. Et c'est un effort à faire, hein. Il m'a fallu prendre effectivement du temps pour comprendre ce qu'il y avait derrière. Alors comme je le disais, c'est un sujet assez large. Choisis la vie, c'est tiré donc du coup du Deutéronome au chapitre 30. Et je ne rentrerai pas dans un sujet théologique. Il y en a qui sont bien plus aptes à le faire que je ne peux le faire moi. L'objectif, c'est plutôt de nous appuyer sur un contexte dans lequel ce choisi la vie est dit, et puis de voir ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai fait là aussi un sommaire très simpliste. Je ferai donc une première introduction, enfin une introduction, et puis donc, du coup, comme je le disais, donc, je m'appuierai sur le contexte donc, de ce peuple qui entend ce message du Deutéronome. Et puis, donc, du coup, je rentrerai donc, du coup, dans le détail de ce que choisir la vie veut dire pour nous aujourd'hui. Et enfin, je terminerai donc par la conclusion. Alors, pour l'introduction. En fait, je me posais la question pourquoi ce choisi la vie était si important pour moi. Choisi la vie, c'est voilà, c'est des paroles très simples, mais en même temps, on sent un condensé de vie derrière, un condensé de quelqu'un qui a vécu, de quelqu'un qui est en train de transmettre quelque chose. Et le Deutéronome, comme beaucoup, j'imagine, le savent, c'est les paroles de Moïse, ce qu'il a dit en dernier. Et dans l'introduction que j'ai intitulé « Prends et garde », il y a ici des mains vieillies par la vie, des mains qui tiennent quelque chose de précieux à l'intérieur, quelque chose qui vit. Et puis en face, des mains jeunes, voilà, qui sont prêtes à accueillir cette chose. Et c'est ce qui se passe dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, c'est Moïse qui a une vie derrière lui, une vie qui a été riche, riche avec Dieu, parce qu'il a appris des choses, parce qu'il a vécu des choses avec Dieu. Et ce Moïse-là, il va faire donc ses écrits pour transmettre quelque chose au peuple, afin que le peuple, qui est une nouvelle génération, cette nouvelle génération qui est prête à rentrer dans le pays promis, puisse accueillir ce message et se l'approprier. Et j'ai mis cette photo-là parce que il y a 3 ans, comme je le disais à certains d'entre vous, mon grand-père est parti avec le Seigneur. Et j'ai eu vraiment la joie et la paix de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et je vous entendais tout à l'heure sur la fin du message, cet accompagnement a été une source de vie pour moi absolument extraordinaire. Ça a été vraiment quelque chose de très précieux pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai mis cette photo-là, où je suis là, avec lui, et où, voilà, il tient une canne. Il ne fait pas grand-chose. Mon grand-père, ce n'était pas quelqu'un de très bavard. Mais par contre, je me rappellerai de toutes ces paroles qu'il a dites au dernier moment. Il y avait comme quelque chose qui représentait la brisure de l'important. C'est-à-dire que Il avait perdu tout ce qu'on apprend dans une vie. On apprend à manger, à boire, à parler, à marcher. Toutes ces choses-là, il l'avait perdu. Il était au moment où on va partir. Et vous dire que ça a été facile de le voir dans cet état-là, clairement non. Parce qu'il fallait lui arroser la bouche parce qu'il n'arrivait plus à parler. Ça a été vraiment quelque chose voilà, qui a été vécu de manière vraie et brute. Mais c'est aussi ça que de partir. Et il y avait là, dans sa mort, une transmission de l'important. Quelque chose où il y a peu de paroles, mais les peu de paroles qui sont dites, on les écoute de manière particulière parce qu'elles sont dites par quelqu'un qui a vécu. Et là, on a une espèce de brisure de l'important, comme si toute la vie avait brûlé, sauf ce qui reste au fond du petit creuset, c'est-à-dire ce qu'il reste d'essentiel. Dans sa vie, l'essentiel pour lui, c'était Dieu, c'était Jésus, c'était le suivre lui. Et c'est ce qui restait au fond de ce petit creuset de son regard. Et je vous parle de ça parce que, comme je vous le disais, c'est ce message de Moïse, ce condensé de l'important. Je vous lis donc du coup ce passage-là et puis on le détaillera après. Donc, au verset 11, il est dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. C'est une chose, donc ça c'est le verset 13, « C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Et puis donc du coup, sur le verset 19, « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il y a d'autres traductions qui traduisent postérité ou descendance par semence. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Oh, pardon, je suis allé trop vite. Alors donc, on va aborder ce contexte. Encore une fois, voilà, j'ai fait des plans, mais un plan est forcément un petit peu subjectif, parce que même si on essaye de déterminer un peu voilà, les paragraphes, ce qu'ils veulent dire, et puis voilà, il y a forcément une subjectivité dans les plans, mais je vous présente les choses comme je les ai reçues ou comprises. Donc là, on est sur un contexte géographique. Le contexte géographique, comme je le disais, donc du coup, on est à l'entrée du pays promis. Ce peuple qui, donc du coup, va être tiré du pays d'Égypte, il sort donc de ce pays d'Égypte, et puis qui va cheminer, traverser la mer Rouge, descendre, vivre tout ce qu'on sait. Je passe très 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 rapidement. Il va recevoir la loi, il va pêcher, il va errer donc dans ce désert. Pendant 40 ans pour que la génération donc, du coup, qui a péché, voilà, comme Dieu l'avait dit, ne voit pas le pays promis. Et puis, donc, du coup, le contexte du Deutéronome se passe à l'est du Jourdain, ici. Il nous est parlé donc, du coup, au début du Deutéronome des plaines de Moab. Alors, voilà, c'est, il me semble, l'endroit sur lequel on se trouve dans le Deutéronome. On se trouve donc du coup à l'est du Jourdain et donc ça fait partie donc du lieu géographique qui est donc dans le Deutéronome. Il y a un deuxième lieu géographique, c'est celui du mont Nebo sur lequel Moïse va monter à la fin de sa vie. Alors le Deutéronome, qu'est-ce que c'est en plusieurs points? Le Deutéronome, c'est... Ça veut dire « seconde loi hein. ». Donc après l'Exode, c'est donc une seconde loi. En hébreu, « devarim », c'est les paroles. Hein. C'est le premier mot de ce texte, c'est Moïse qui dit « voilà, je vais prononcer des paroles ». Donc c'est les paroles de Moïse. Donc, comme je le disais, donc les endroits clés, plaine de Moab, le mont Nebo. L'auteur, c'est Moïse. Et puis la fin, donc du coup, du Deutéronome, c'est Josué, après la mort de Moïse. Ce qui est assez intéressant, et ce qui abonde dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est rédigé comme un testament spirituel. C'est, voilà, je vais partir, je vais léguer quelque chose que moi, j'ai reçu de Dieu. Et donc, du coup, ce testament-là, spirituel, il est donc couché comme ça devant le peuple, comme quelque chose, une carte à suivre. Donc, les destinataires directs, c'est la nouvelle génération du peuple d'Israël qui est prête à rentrer dans le pays promis. Et on voit bien là clairement qu'il y a une page qui se tourne. Moïse est en train de partir, il va mourir, il est à la fin donc, de sa vie. Et donc il y a quelque chose qui se tourne aussi sur l'aspect textuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve donc à la fin du dernier livre du Pentateuque, donc de la Torah pour les Juifs. Ce sont donc les derniers écrits de Moïse. On est donc, j'ai mis donc sur l'apothéose de la loi, l'amorce des livres historiques. Excusez-moi, je vais être beaucoup dans la lecture au départ, et puis je serai peut-être un petit peu plus spontané après. Ce que je trouve aussi intéressant de souligner sur le Deutéronome, c'est un axe de transition. C'est-à-dire, le Deutéronome, ça nous dit... sur le chapitre 8, tu te souviendras. Et puis, ce Deutéronome se projette sur le futur, c'est-à-dire l'entrée dans le pays d'Égypte. Tu vas entrer. Donc, tu te souviendras et tu vas entrer. Moi, je trouve que ça me parle. Tu te souviendras et tu vas entrer. Dans nos vies, comment ça nous parle? Tu te souviendras. Quand on s'appuie sur le passé, il ne faut pas être passéiste, bien sûr, il ne faut pas ruminer le passé comme quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, mais faire un bilan de ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé, est nécessaire dans nos vies pour s'appuyer dessus et pour se projeter, pour aller de l'avant. Je le détaillerai un petit peu plus après. Donc, il y a cet axe de transition, il y a un appel à l'engagement, on le verra un petit peu plus en détail. Et puis, il y a un point aussi que j'ai mis à la fin, c'est que Jésus, à trois reprises, il utilise les paroles du Deutéronome. Dans la tentation sur le désert, à trois reprises, lorsqu'il va répondre au diable, il va utiliser les paroles du Deutéronome. Et je trouvais ça intéressant à souligner, quand il lui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça vient du Deutéronome. Et donc, du coup... ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus met en pratique ses paroles. Lorsque le docteur de la loi lui pose la question « Quel est le plus grand commandement ?», il lui répond avec les paroles du Deutéronome. Voilà. Et je trouvais ça donc du coup intéressant à souligner dans un premier temps. Alors, si on regarde la structure du texte du Deutéronome, elle se compose un petit peu comme si on présentait un sujet. C'est-à-dire qu'on a trois grands discours. On a trois grands discours qui agissent de la même manière qu'on présente un sujet, c'est-à-dire on a du chapitre 1 au chapitre 4 les actes de Dieu, le chemin jusqu'ici. Comme je le disais, c'est un regard en arrière. C'est, voilà, dans ta vie, tu as mis ça en œuvre. Tu as mis ça en œuvre dans ce qui a été négatif, et puis Dieu a réagi comme ça, et puis il s'est passé ci et ça. Et je pense que dans nos vies, il est important, si ce n'est important, même primordial, de savoir le faire. Lorsqu'on se retourne sur nos vies, le fait de, voilà, encore une fois, de ne pas être passéiste, mais de dire, ben voilà, là j'ai mis ça en œuvre, là j'ai fait des mauvais choix, là j'en ai fait des bons aussi, et Dieu a réagi comme ça avec moi, Dieu a été bon ici, Dieu m'a montré à cet endroit-là que les choses, ben, qu'il était dans l'accompagnement avec moi. Et donc ce regard en arrière, dans un premier temps, en tant qu'introduction, est primordial lorsqu'on veut se projeter, comme le Deutéronome nous l'invite. Le Deutéronome, c'est comme je l'ai mis en troisième partie, c'est un appel à l'engagement, c'est une projection vers l'avant. Vous allez rentrer dans le pays, vous allez rentrer dans le pays et il va se passer quelque chose. Et parce qu'il va se passer quelque chose, alors il faut que vous entendiez d'abord ce que j'ai à vous dire. Il faut que vous prépariez. Ils avaient eu du temps pour se préparer dans le désert, mais dans ce discours que Moïse prononce, alors il y a vraiment, comme je le disais, voilà, la quintessence de l'important, quelque chose... où il y a un résumé de vie qui est là de manière précieuse. Et puis, donc, du coup, il y a ce développement que j'ai appelé les principes d'une vie sainte. Alors, encore une fois, il y a d'autres plans possibles. Et dans ce développement, il y a les respects de l'Alliance, l'amour pour Dieu, l'adoration de Dieu, les règles de justice, donc respect des règles de justice, la vigilance dans les relations, conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et puis, donc, du coup, il y a, dans le chapitre 28, du chapitre 28 au chapitre 30, un appel à l'engagement. Et le « Choisis la vie » intervient à la fin donc, de cette partie-là, c'est-à-dire du troisième discours, dans le chapitre 30, où il dit « Choisis la vie ». Choisis la vie, il est parlé de ce commandement. Dans le verset qu'on a lu, il dit « Ce commandement n'est pas au-dessus de tes forces. Il n'est pas loin de toi. Il est près. Il est dans ton cœur. » Et ce commandement, c'est quoi quand on lit le Deutéronome, on a quand même, excusez-moi l'expression, une plâtrée de choses qui sont là et qui sont très importantes. Il y a un grand nombre de prescriptions, de commandements, etc. Et il parle d'un seul commandement, un seul. Comme si, en fait, il y avait un commandement qu'il fallait suivre au-delà des autres et qui rassemblait même les autres. Et ce « choisis la vie-là », en fait, il comprend un ensemble de commandements. C'est comme si, choisir la vie, c'était respecter cette règle et ses prescriptions et commandements. Et donc, du coup, il intervient donc ce troisième discours comme une conclusion, voilà, un appel à l'engagement de manière forte et de manière condensée. Et puis, donc, la fin... Ah, attendez. Je vais essayer de pousser un petit peu. Ah, remarque, non, on ne voit pas les bandes. Donc, la fin, c'est la passation des responsabilités, donc du chapitre 31 à 34. Donc, à Josué, aux Lévites, les derniers jours et puis la mort de Moïse. Voilà. Voilà un petit peu comment on peut détailler ce Deutéronome. Alors, je vous ai fait là un tableau. Dans ce passage, il y a donc du coup, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Voilà. Le peuple avait clairement devant lui ce que la mort voulait dire, ce que la vie voulait dire, et puis les conséquences directes des choix qui étaient les siens. C'est-à-dire, choisis la vie, ça t'amènera des bénédictions. Choisis la mort, ça t'amènera des malédictions. Il y avait quelque chose de quasiment, en fait, presque mathématique au fait de choisir la vie ou de choisir la mort. Et donc, du coup, alors je ne sais pas si on ne peut pas dézoomer, parce qu'on ne voit pas le bord, là. Sur mon appareil, tu penses ? Bon. Alors, du coup, dans la vie, il y a, donc, du coup, cette liste de choses. Encore une fois, toutes sont tirées du chapitre 30. Hein. C'est-à-dire que toute cette liste-là, je ne l'ai pas pris dans tout le Deutéronome, elle n'est que dans le chapitre 30. Et donc, du coup, la vie, qui est détaillée donc, de ce chapitre 30... J'arrive à... Donc, toute cette vie, elle est détaillée dans le chapitre 30. Voici la liste. Donc, prendre la bénédiction et la malédiction à cœur. Ensuite, revenir. Alors, je m'arrête sur revenir. Revenir, ça me paraît important de s'y arrêter parce qu'on est toujours parti à un endroit dans nos vies où on n'aurait pas forcément dû aller. Revenir, c'est Dieu qui dit de là où tu es parti, là où tu es allé, là où tu te retrouves maintenant dans une position difficile, reviens. C'est ça, choisir la vie. Et dans nos vies, moi, je trouve que ça me parle parce qu'il y a des fois où on est parti à un endroit, et puis quand on fait vraiment le constat de là où on est parti, alors choisir la vie, c'est des fois revenir. Et puis, dans la vie, il y a aussi le fait d'obéir. Et là, on voit que la parole... nous le souligne de manière particulière. On a beaucoup de versets sur le fait d'obéir. Il y a, donc du coup, il y a aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, mettre en pratique, respecter ses commandements et prescriptions, s'attacher à lui. Voilà, toute cette liste qui constitue la vie. Et puis là, il y a liste des bénédictions. Bon, je ne la lirai pas, mais voilà. Il y a donc du coup, dans le discours de Moïse, au chapitre 30, cette volonté de dire, voilà, la vie, elle est là. Vous l'avez tous devant les yeux. Voilà ce qu'il vous faut faire. Effectivement, ça comprend d'autres choses derrière. Effectivement, ça implique voilà, de suivre toutes les prescriptions et les commandements qui vous ont été donnés Mais en gros, voici la liste de ce que comprend la vie. Et puis la mort, on est quasiment sur un opposé, hein, se détourner de Dieu et revenir, obéir, c'est très différent. La désobéissance, ben, l'obéissance derrière, se prosterner devant d'autres dieux, servir d'autres dieux. Voilà le chapitre 30 qui nous fait un condensé de la mort et puis de la malédiction. Et puis pour en terminer donc du coup avec ce contexte, alors là, je suis désolé, on voit pas grand-chose, mais c'est une photo qui est prise en haut du mont Nebo et qui correspond du coup approximativement, alors évidemment, hein, on n'y était pas pour savoir que c'est ce qu'a vu Moïse, mais on est en haut du mont Nebo et on est en direction en fait du pays promis. Et donc du coup, je trouve intéressant cette photo parce que... comment ? On n'y voit pas beaucoup plus sur place. D'accord, bon. Moi, je trouve que ce mont Nebo, il nous parle en tant que responsable dans l'Église. Pourquoi ? Parce que si Moïse se retrouve ici à regarder le pays promis, sans pouvoir y rentrer, c'est parce qu'il a été tenu pour responsable de ce que le peuple avait fait. Et nous serons tenus pour responsables si nous prenons des responsabilités dans nos églises. Nous serons tenus pour responsables parce que c'est une charge particulière qui, donc, du coup, implique une responsabilité particulière. Ce que je me dis aussi, c'est qu'en haut de ce mont Nebo, il y a un lâcher-prise de la part de Moïse. Moïse, ça ne dépend plus de lui. Il a donné ce qu'il avait à donner. Hein. Là, excusez-moi, le mont Nebo, c'est donc après ces discours-là, après donc son cantique, il se retrouve donc sur ce mont Nebo. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a donné ce qu'il avait à donner et il passe le témoin. Il passe le témoin. Il le fait avec confiance. De toute façon, ça ne dépend plus de lui. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que mon grand-père, il était un petit peu sur ce mont Nebo. Bien sûr, les choses ne dépendaient plus de lui. Il avait donné ce qu'il avait à donner, avec confiance, il laissait passer ce témoin-là. Et je trouve ça beau, vraiment, cette image-là. Et on peut la prendre sur plusieurs axes. On peut la prendre dans nos églises. Ça ne veut pas dire que les plus âgés n'aient pas de responsabilité. Ça ne veut pas dire que les plus âgés n'aient plus rien à faire dans l'église. Mais ça veut dire qu'à un moment, il y a un passage de témoin à faire, avec confiance, pour se dire, voilà, les choses... Moi, j'ai mis ça en œuvre. La nouvelle génération va prendre les choses. La nouvelle génération va s'approprier les choses. Et c'est nécessaire qu'elle le fasse. Parce que peut-être qu'on a cette image de dire « il faut que je tienne le témoin jusqu'au bout ». Et puis que peut-être certains ont cette image-là, avec le témoin entre les mains, ils finissent par s'écrouler. Alors la nouvelle génération s'abaisse, prend le témoin et elle continue à marcher. Mais... pour avoir quelque chose de fluide, pour avoir un passage fluide de témoins, pour être dans une dynamique d'église, effectivement, il y a une nécessité que cette génération qui part passe les choses avec confiance et puisse se dire que voilà, même si cette génération fera les choses de manière différente, elle les fera comme elle les a comprises. Et donc, voilà pour un contexte effectivement très rapide donc sur le Deutéronome. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que pour moi, choisir la vie veut dire dans ce contexte-là ? Choisir. J'ai discuté avec un ami cette année et qui me disait une chose qui m'a perturbé un petit peu, je vous avouerai. Il m'a dit « choisir ne serait pas possible si l'on n'était pas touché par la grâce de Dieu ». Alors, je vous avouerai que dans un premier temps, alors en s'appuyant sur Romains 9, en s'appuyant sur certains passages bibliques, le fait de choisir ne serait pas une possibilité, ne serait pas quelque chose de possible si Dieu ne touchait par grâce. Alors, effectivement, je trouve que c'est quand même toujours intéressant de se laisser chahuter dans nos convictions, en toute chose, parce que si on est persuadé des choses sans les avoir creusées ou approfondies, on peut se faire des vérités qui débordent de manière excessive vers quelque chose qui n'est plus du tout une vérité. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, moi, j'ai la conviction, effectivement, qu'on a le choix tout le temps, que Dieu nous laisse libres, que, effectivement, Dieu, comme il l'est dit, produit en nous le vouloir et le faire. Bien sûr, par son esprit, nous sommes animés des choses que nous décidons. Voilà, on voit bien cette coactivité entre l'esprit et nous. Mais pourquoi y aurait-il tant d'impératifs dans la parole si nous n'avions pas le choix? Pourquoi Ève aurait-elle pu avoir le choix de prendre le fruit si nous n'avions pas le choix? Bien sûr, Dieu est un Dieu qui nous laisse le choix par amour, parce que nous avons la liberté en lui de pouvoir choisir à tout moment. À tout moment, nous choisissons des choses que nous construisons. C'est un choix. Et Dieu, encore aujourd'hui, nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, les choses sont devant toi, elles sont claires, elles sont dans l'Évangile, et tu dois les mettre en œuvre. Tu dois les mettre en œuvre en liberté. » Alors le choix, c'est très intéressant. Le choix, ce que j'ai trouvé donc du coup, c'est que choix en grec c'est krisis et ça nous a donné crise et c'est quelque chose de forcément négatif. Crise, on n'a pas envie de traverser des crises. Sauf que de manière étymologique, crise était quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire que c'est un instant où l'on prend un choix, où les choses en fait sont dans une période de choix où les choses sont à séparer, à distinguer. Ça aussi, c'est intéressant. Quand on traverse une période de crise, ça nous oblige à nous reposer la question de ce qu'on a toujours fait et de la manière dont on voudrait faire les choses. On prend un choix en fonction de la manière dont on sépare, dont on distingue. Hein, on distingue la mort, on distingue la vie. Dieu nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, mais comment est-ce qu'on pourrait choisir si à un moment on ne distingue pas les choses, si on ne les sépare pas de manière claire ?» On pourrait se dire, bah, Dieu il voit les choses de manière très binaire. La mort, la vie, ce n'est pas toujours aussi simple dans nos vies. Il y a des fois où on a l'impression qu'on est plutôt sur du gris que du noir ou du blanc. Sauf que Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Il y a des choses qui sont claires en Dieu. Et pour que ça soit clair, eh ben, il nous faut, nous investir effectivement dans la lecture, dans le fait de s'approcher de Dieu. Donc c'est une remise en question de nos principes, de ce que l'on met en œuvre. Une crise, ça n'est pas agréable parce que ça ébranle nos convictions, ça ébranle notre socle, nos fondements, les fondations sur lesquelles on a toujours fait les choses de cette manière-là. Faire un choix, c'est remettre en question avec humilité ce qu'on a toujours fait et mis en œuvre. Alors j'ai mis une liste des différentes crises qu'on peut traverser. Il y a ce qu'on appelle la crise d'identité, crise d'adolescence, crise de la quarantaine, crise écologique, crise d'angoisse. Ces crises-là, c'est un moment. Alors moi, je suis plutôt sur la crise de la quarantaine ou en tout cas un pied dedans. Mais on peut vivre les crises de manière constructive. C'est-à-dire que être en crise, il y a des fois où il y a une nécessité presque de déclencher une crise. Et je pense très sincèrement, et je vous le dis ouvertement. Lorsque l'on s'endort sur quelque chose qui est pour nous en fait un socle ou un fondement, eh ben ça devient quelque chose qui meurt parce qu'on ne s'approprie plus les choses, parce qu'on ne les remet plus en question, parce qu'on se dit qu'on a toujours fait les choses comme ça et que de toute façon déclencher une crise, eh ben c'est ébranler ces choses. Mais oui, et c'est de mon point de vue nécessaire pour la raison suivante, c'est que si l'on veut s'approprier les choses de manière claire, il faut pouvoir les reconsidérer. Et je pense qu'on ne les reconsidère pas qu'une seule fois en plus dans une vie. On les reconsidère de manière régulière. Quand il est dit que toutes choses sont faites nouvelles en Christ, c'est que de mon point de vue, lorsque à tout âge on est capable de reconsidérer les choses, alors on les fait vivre. On les fait vivre parce qu'un verset qui nous a parlé un jour nous parlera différemment le jour suivant, parce que l'on aura besoin d'entendre quelque chose de différent et que l'Esprit nous parlera différemment. Et donc, du coup, c'est un engagement personnel, en liberté. Et j'insiste vraiment sur cette liberté. Un choix, c'est Dieu qui laisse en liberté. Si l'on a l'image de Dieu comme ça, on a une image fausse, clairement fausse. Ce n'est pas quelqu'un qui tire les ficelles. Quand j'ai mis « Dieu produit en vous le vouloir et le faire », c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'Esprit qui nous anime, qui est en nous et qui produit les choses. Mais nous choisissons. Et ceci est une image fausse de Dieu. Nous sommes libres. Et puis, en plus, dans cette image, on voit bien que Où est l'amour dans cette image? Où est l'amour où, s'il n'y a pas de liberté? Moi, j'ai l'image de mon Dieu comme ça. Mon Dieu, c'est un Dieu qui tend la main. Une main ouverte, une main qui accueille, une main qui propose, une main qui dit « Choisis la vie ». Choisis la vie, c'est effectivement un impératif pour nous alerter sur quelque chose, mais c'est aussi une proposition. Cette main tendue, c'est « Viens à moi, toi qui ?» Et toutes ces paroles qui résonnent comme ça, comme des échos, toutes ces paroles-là, elles se trouvent dans le Deutéronome. « Choisis, prends garde, aime, mets en pratique, reviens. » Voilà, considère les choses comme importantes. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui, notre Dieu, c'est quelqu'un qui tend la main, qui vient chercher son peuple comme ça. Et qui nous invite à le suivre. Et c'est à nous, effectivement, d'accueillir cette main, de dire que, voilà, on veut le suivre, on veut lui prendre la main. C'est un choix personnel. Alors, si dans ces trois mots, il y a « choisir », il y a aussi la vie. Et j'ai fait une touche d'humour parce que on est souvent en fait en train… Si je pose la question « qu'est-ce que pour toi choisir la vie ?», alors on s'imagine choisir la vie, si effectivement en fait on ne croit pas en Dieu, en fait on est plutôt sur un « choisi ta vie » que « choisi la vie ». On a tous… une carte postale de ce qu'est choisir la vie pour nous. Hein. On pourrait dire que choisir la vie, c'est ça. Choisir la vie, c'est avoir les doigts de pied en éventail devant une mer limpide, un beau ciel bleu. Là, voilà, ça, c'est une carte postale. Seulement, Dieu nous invite à reconsidérer cette carte postale. Et il l'a fait avec moi, je vous donne un autre témoignage, il l'a fait avec moi il y a peu de temps. Lorsque j'étais plus jeune, on habitait dans une belle maison à Morinvilliers. On habitait juste à côté de l'église. Et j'ai eu une enfance très heureuse, vraiment, avec des parents aimants, avec des amis, vraiment. Je me rappelle de beaucoup de bons moments. C'est marrant parce que... Les choses en souffrance, j'en ai pas tellement souvenir, et c'est quand même un signe de choses agréables que j'ai vécues. Et donc, on avait une belle maison. Et à 14 ans, il y a des huissiers qui ont débarqué dans notre maison, qui ont pris le piano, la maison, et cette maison nous a été enlevée du jour au lendemain. On s'est retrouvés dans un petit appartement. Et ça a été quelque chose d'une souffrance extraordinaire et terrible pour moi. J'étais en colère contre Dieu, qu'il ait pu laisser faire ça, colère contre mon père, parce que j'avais l'impression qu'il y avait eu un problème de gestion de sa part. Il pouvait pas permettre qu'on perde ça. Pour moi, c'était tout. Et je suis resté en colère pendant très longtemps, vraiment. Jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, où je gérais la colère tant bien que mal, comme des fois on est amené à le faire aussi dans nos vies lorsqu'on a vécu quelque chose en souffrance. On est là, on a l'impression des fois de lever la tête en dehors de l'eau de la colère, et puis un autre coup on y passe dessous, et puis donc du coup les choses arrivent comme des bulles, comme si ça éclatait comme ça dans nos vies en se disant « mais pourquoi je suis en colère comme ça? Pourquoi il y a des choses qui sortent comme ça ?» Et puis donc du coup, il y a 3 ans, Dieu a permis qu'on trouve une maison à Aix. Et ceux qui la connaissent vous diront que c'est, en tout cas moi je l'estime, c'est une belle maison. Je considère qu'elle est même mieux que celle qu'on avait eue à Morinvilliers. Et Dieu m'a dit, tiens, tu veux ta carte postale? Tiens, je te la donne. Je te la donne. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant, c'est quoi le précieux pour toi? Maintenant que toute cette traversée du désert que tu as vécue, toi, comment est-ce que tu en es sorti? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en tant que chrétien, vivre ça. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas bien de vivre ça. Mais Dieu nous dit, à des moments, il est où ton trésor, là? Où est-ce qu'il est, ton trésor? Il est dans cette carte postale? Il est les pieds dans le sable? Vous savez, cette maison-là, du coup, que je considère maintenant comme mieux que celle qu'on avait eue, je me dis, ça serait bien d'agrandir un peu la piscine, faire un jacuzzi, puis on vient à avoir des pensées qui est que, vous voyez cette photo-là, bon, bah, on pourrait avoir des sandales un petit peu mieux, et puis là, on pourrait mettre des cocotiers, et puis là, on pourrait virer les nuages qui sont au fond. Il y a toujours manière de considérer que les choses peuvent être améliorées. Sauf qu'il y a un moment, en fait, où Dieu nous dit, ben voilà, le assez n'existe pas. Le assez n'existe pas. C'est un mirage. C'est un mirage. Et c'est ce que j'ai fini par comprendre de cette leçon de vie qui a duré un moment. C'est que, en fait, ce assez-là, il rend fou ceux qui ont une soif de posséder. En fait, c'est un mirage. C'est quelque chose qui fuit sans arrêt. Lorsque l'on a soif de posséder, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on considère que cette carte postale est un dû et un acquis, alors on devient fou parce que l'on a l'impression en fait qu'il faut toujours plus, toujours mieux, encore, encore, encore. Et c'est la position de ce monde, c'est la position souvent de ce monde. Je ne fais pas de généralité binaire, mais c'est souvent la position de ce monde. C'est-à-dire qu'on est dans « j'aimerais être ». Et si il se passait ça, alors je serais heureux, alors ça serait assez. Je fais juste aussi un petit témoignage sur le père d'un ami qui avait bossé toute sa vie, mais de manière acharnée. Hein, il était plutôt là. Et puis, à la fin de sa vie, il avait eu vraiment une position voilà, plutôt là. Et donc, du coup, avec ça, il est arrivé là. Et il s'est acheté un yacht dans lequel il nous invitait tous les étés. Et quand on est sorti de ce port, là, dans ce yacht, un jour, il m'a dit une chose et qui a été aussi un élément déclencheur dans ma vie pour me rendre compte que ce AC était un mirage. Il m'a dit, t'as vu, Yvan ? Il m'a dit, j'aimerais bien maintenant m'acheter ce bateau-là. Il y en avait juste un petit peu plus gros que le sien, mais je me suis dit, du haut de mes 20 ans, c'est assez. Quand on est arrivé là, c'est assez. Stop. Mais sauf que ce assez-là n'existe pas. Il faut renoncer au assez. Le assez, c'est une perte de temps. Et la Bible nous dit, qui veut sauver sa vie, la perdra. Et je pense que là, on est dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si l'on considère que avoir une vie ou vivre une vie, choisir la vie, c'est effectivement être une star, être beau, être intelligent, courir après ces choses-là de manière outrancière, alors on sert d'autres dieux. Ça, c'est... Vous savez, des fois, on peut être un peu juge du peuple d'Israël. Hein. On se dit, c'est pas possible. Il y a des fois où on lit les histoires donc, du peuple d'Israël. On se dit, mais là, le péché, mais... Ils se cassent la figure de manière lourde et dramatique, et puis ils vont se vautrer dans le péché 3 secondes après, et puis... Et on se dit, mais c'est pas possible, on pourrait être juge, mais sauf que, en fait, on a des dieux qui sont beaucoup plus subtils aujourd'hui. Ces dieux-là nous font perdre notre temps. Et Dieu nous dit, choisir la vie, c'est renoncer à ça. Ça ne veut pas dire que si on est amené à vivre quelque chose de bien, il faille forcément y renoncer. Ça veut dire que quel est le temps que je prends à ça ? La Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, mais ça, est-ce que c'est notre trésor ? Est-ce que ces choses-là sont notre trésor ? Est-ce que nous prenons trop de temps pour ces choses-là ? La Bible nous dit aussi à quoi sert à un homme de gagner tout le monde, de gagner tout le monde. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Pour moi, cette vie-là, elle est. Ouais, c'est un sujet qui est effectivement très large, sur lequel on va faire un focus de manière particulière, hein, parce que encore une fois, on pourrait s'éparpiller à partir sur beaucoup d'axes. Mais ce que j'aimerais juste souligner sur cette diapo, c'est que pour nous, Jésus représente la vie. Est la vie. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Suivre Christ. Suivre Christ. Si on n'approfondit pas, là encore, en fait, on peut rester dans une espèce de surface. Hein. Moi, je suis en Christ. Hein. Moi, je voilà. Mais sauf que, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être en Christ, suivre Christ. C'est là aussi quelque chose qui nous demande à chacun d'approfondir. Il faut que nous approfondissions. Et donc, j'aime bien ce passage de Philippiens 2 qui, pour moi, résume assez bien ce que veut dire suivre Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et donc j'ai fait une liste de ce qui était pour moi suivre Christ. Suivre Christ, c'est pas d'esprit, donc c'est être déjà dans l'humilité. Être dans l'humilité. Il faut considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Il faut considérer les intérêts des autres. Là, je le dis pour moi le premier, mais qu'est-ce qui est notre moteur dans notre vie? Est-ce que c'est nos intérêts? Est-ce que c'est les choses qui nous concernent? Est-ce que ce qui nous fait agir et choisir? Est-ce que dans les critères de choix que nous avons dans notre vie, où est placé notre intérêt sur la liste des critères de choix? Est-ce que je le mets en premier et donc, du coup, j'amène systématiquement en fait, mon intérêt comme étant quelque chose à protéger systématiquement ou est-ce que je considère aussi ceux des autres? Je considère que dans toute chose, quel est l'intérêt de l'autre? La compassion que Christ a eue, c'est de considérer les intérêts des autres. Ce n'était pas son intérêt de venir, ce n'était pas son intérêt de cheminer, ce n'était pas son intérêt de mourir. Mais parce qu'il a considéré notre intérêt à nous, par amour pour nous, alors il a vécu ces choses. Et parce qu'il a considéré que ces intérêts-là, que ses intérêts à lui, il les a fait passer derrière. Et donc, du coup, il nous a dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » Dépouillé. Dépouillé, c'est un terme fort, dépouillé. Dépouillé, c'est quand quelqu'un se fait dépouiller, c'est qu'il n'a même plus de quoi vivre. C'est-à-dire qu'il a renoncé même à la petite chose qui lui permettrait de subsister. Se dépouiller soi-même, c'est ne plus rien avoir. C'est tout abandonné. Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dépouillé, c'est lui qui a décidé, par choix, de venir pour nous se dépouiller lui-même. En prenant la forme de serviteur. Semblable aux hommes, un simple homme. Suivre Christ, quand Christ nous dit « je suis le chemin », comment est-ce qu'on l'entend? Est-ce que c'est un chemin qui nous convient, un chemin confortable? Est-ce que c'est un chemin qui est apaisant? Est-ce que c'est un chemin qui sur lequel on trouve notre confort? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous implique d'être à la suite de Christ, en étant serviteurs les uns des autres, en s'aimant les uns les autres, en étant un simple homme? Il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Évidemment, il ne nous est pas demandé de nous abaisser jusqu'à la mort de la croix. Mais il y a un passage qui nous dit « Vous devez donner vos vies pour les frères. » Donner vos vies pour les frères, je pense que ce n'est pas forcément à prendre au premier degré, évidemment, mais donner sa vie pour les frères, c'est dire « Voilà, tous les intérêts que je considère comme quelque chose de primordial pour moi, je renonce en haut de ce petit mont Nebo et je me dis, je renonce à ça pour vivre de la manière dont Christ a vécu, c'est-à-dire je me mets en tant que serviteur. Je ne suis pas là à jouer des coudes dans les choses qui sont importantes pour moi, dans mon petit pré carré qui m'est laissé. Je ne suis pas là à vouloir être en compétition. Et je le dis ça aussi par rapport aux personnes qui ont un ministère. Malheureusement, il y a de l'orgueil. Malheureusement, il y a des personnes qui, dans leur ministère, considèrent que les choses leur appartiennent, que leur intérêt prime. Et je pense qu'il nous faut faire attention en tant que chrétiens. de savoir que les choses qui nous sont confiées en Dieu ne nous appartiennent pas, jamais. Mais par contre, que les choses qui nous sont confiées, on doit en prendre soin. Considérer la mort et la vie, c'est ce qui nous est dit dans Deutéronome, considérer la bénédiction et la malédiction comme quelque chose d'important. Donc il y a d'autres passages aussi qui nous montrent quel était l'esprit, le sentiment de Christ. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. La volonté de Christ, c'est qu'on le suive, lui, dans la manière dont il a marché, dans ce qu'il nous a montré. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Vous devez faire comme je vous ai fait. Si vous voulez choisir la vie, si c'est votre choix, c'est de suivre ce qui m'a animé, moi, Christ. C'est ça qu'il nous dit par ses paroles. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Et à ce moment-là, lorsque l'on considère que vivre Christ, c'est quelque chose d'important, on peut être amené, à l'image de Paul, à considérer que les gains, tous ces gains que l'on considère, nos conditions, notre travail, les choses qui sont importantes pour nous, nos maisons, comme dans ce que je disais tout à l'heure, toutes les choses voilà, qui étaient un gain, ben, je les considère comme une perte. Je les considère comme une perte. Parce que, en fait, ce n'est pas ça, mon trésor. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ma condition, ce n'est pas les choses qui font que je suis quelqu'un de bien, que je peux bomber le torse de toute manière. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Les choses qu'on a, on les a reçues. Alors pourquoi tu te glorifies ? Mais en revanche, par contre, tu peux bénir. Vas-y, bénis. Dis que les choses que tu as reçues sont bien, sont bonnes. Ce assez-là, il te fait perdre ta vie. Mais par contre, tu peux considérer ta vie et dire merci Seigneur, parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait du bien. Même quand on a des choses difficiles à vivre, à l'image du Seigneur, quand il voit que son ami Jean est en prison, quand il voit que tout le monde est allé voir Jean-Baptiste au désert et pour des mauvaises raisons, et que personne n'a compris le message, et qu'il se retrouve dans une situation difficile, il fait quoi à la fin ? Il bénit. Il bénit parce qu'il y a des petits-enfants qui ont compris le message. Parce que dans toute chose qu'on est amené à traverser, il y a de la lumière pour la bénédiction. Il y a des choses sur lesquelles on peut amener à bénir de manière claire. Peut-être il y a certaines fois où il faut plus les chercher. Peut-être il y a des fois où ce qu'on est amené à vivre dans notre vie, c'est peut-être plus compliqué de bénir avec. Mais il y a toujours cette petite lumière-là où on peut dire merci Seigneur. Et donc du coup, celui qui prétend qu'il demeure en Christ aussi doit vivre comme Christ a vécu. Donc ce que je disais, les inversions des valeurs, sauver sa vie, la perdre, la trouver. Une attitude de pensée dans l'humilité, en obéissance, dans la paix, qui amène sur un chemin de compassion. On voit Jésus qui avec ses deux aveugles, la foule, l'histoire du bon samaritain, la femme lapidaire. L'autre devient un être à aimer et pas à lapider. Et là encore, je le dis pour moi le premier, mais dans nos paroles, dans nos actes, nous lapidons. Certaines fois, nous pouvons être amenés à lapider. Il y a des choses que nous vivons de manière difficile en relation. On le disait tout à l'heure à table, les relations, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi quelque chose de très compliqué, parce que quand on a affaire à quelqu'un avec qui on a du mal à s'entendre, on a juste envie de les triper, des fois, c'est difficile à vivre. Mais par contre, Dieu nous dit, voilà, t'as envie de le lapider pour telle ou telle raison ? Peut-être que tes raisons, elles sont bonnes. Peut-être que les raisons, là, elles étaient bonnes, mais aime-le. Ne le lapide pas, aime-le. Comment est-ce que tu peux l'aimer ? Comment tu peux chercher à l'aimer ? Ce chemin-là, il est plus difficile que la lapidation. Prendre une pierre par terre et la jeter sur l'autre, en mots ou en actes, c'est facile à faire. Mais par contre, aimer, trouver aussi là, dans cette situation, une occasion pour aimer l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le chemin de notre Seigneur. C'est le chemin de notre Seigneur qui, lui, a regardé avec compassion la femme adultère, a voulu apprendre par le bon samaritain. Lorsqu'il regardait la foule avec compassion, il le regardait non pas à ses propres intérêts, mais aux intérêts des autres, à ce que les autres vivaient, la manière dont ils souffraient. Et donc, comme je disais, l'autre, avec le regard de Christ, devient un être à aimer, en vérité, et non à lapider. Aimer, ce n'est pas non plus ce qu'on se disait à table. C'est aimer, ce n'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est-à-dire on fait toute chose un peu rondouillarde, en fait. Et puis cet amour qui ne dit rien, ce n'était pas notre Seigneur, ça non plus. Aimer, c'est aussi aimer en vérité. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Et donc, sur ce même sujet, donc du chemin de compassion, il y a pour moi une histoire qui me touche particulièrement. Cette histoire, c'est celle de Pierre et Jean qui montent au temple. Alors, on va le dire, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul bond, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce que on imagine la situation. Pierre vient de renier par trois fois le Seigneur. Et je pense qu'il en avait encore les oreilles qui avec le coq qui devait résonner sévèrement dans sa tête de culpabilité de ce qu'il avait fait, de la manière dont il l'avait renié. Lorsque le Deutéronome nous dit « reviens », là il revient, Pierre. Et donc, du coup, il se retrouve dans cette situation où il a dû traverser une crise. Il y a eu une crise à un moment où il a dû avoir un choix. C'est soit je continue dans ce reniement-là, et donc, du coup, j'abandonne tout ce qui m'a semblé pour un moment primordial et important, soit je décide de revenir. Et il se retrouve avec Jean, donc, du coup, devant un homme. Un homme, vous savez, c'est ces personnes-là qu'on ne voit même plus si on considère, ses intérêts. Uniquement, cet homme-là, il est allongé par terre. Et donc, du coup, Pierre et Jean fixent les yeux sur lui. Ils fixent les yeux sur lui et lui sur eux. Il y a un regard d'échange dans l'amour. Il y a un regard où je regarde l'autre et l'autre me regarde. C'est-à-dire que j'ai cet échange-là. Je prends le temps de regarder l'autre et l'autre prend le temps de me regarder moi. Et alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai ni argent ni or, voilà. Pierre et Jean disent, ben voilà, nous on n'a rien à donner, nous on n'a rien à donner. Ne me regarde pas, regarde Christ à travers moi. Regarde Christ à travers moi parce que c'est lui qui va te donner. Parce que la lumière qui m'habite, elle vient de Christ. Parce que ce n'est pas moi qui brille, c'est Christ à travers moi. Parce que c'est l'Esprit qui m'anime, parce que les choses qui m'habitent, elles ne viennent pas de moi. Il dit, je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or. Moi, il y a des choses que j'ai reçues, pour lesquelles je bénis. Mais la lumière, la guérison qu'il va leur donner, qu'ils vont leur donner, ça ne vient pas d'eux, ça vient de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et donc, du coup, il se met sur ses pieds et puis il finit en louant Dieu. Et donc, Pierre était revenu de son reniement. Pierre était revenu de son reniement. Et quand j'ai choisi ce sujet de choisir la vie, honnêtement, je ne savais pas où j'allais arriver. Et je pense que c'est bien de faire les choses comme ça, parce qu'on est surpris, des fois étonné, éclairé. Lorsqu'on prépare un sujet comme ça, il y a des petites choses, des petits versets qui scintillent de manière particulière, et on voit l'Esprit qui agit de manière particulière. Et donc, du coup, pour conclure, toutes ces choses qui étaient en fait que j'ai émis sur la liste de la vie, on s'aperçoit que, alors je suis désolé, on n'y voit pas grand-chose, mais on s'aperçoit que tous ces mots font partie de la liste de ce qu'est la vie. Pierre, il met en pratique, c'est-à-dire que il pourrait dire « Oui, je sais que le Seigneur, en théorie, peut te guérir » et rester sur la théorie. Mais Pierre, non. Il s'avance et il met en pratique les choses qu'il habite. Et ça, je trouve que ça nous parle de manière particulière. Est-ce que nous, on reste dans la théorie? Est-ce qu'on fait de la théologie inerte? Ou est-ce qu'on met les choses de manière claire en pratique dans nos vies? Est-ce qu'on vit les choses avec Christ? Ou est-ce qu'on les vit en théorie? Il y a aussi dans cette liste de vie, dans le Deutéronome, respecte ce commandement. Respectez les commandements et les prescriptions. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau que vous vous aimiez les uns les autres. Pierre respecte ce commandement à ce moment-là. Il aime celui qui est par terre. Il aime celui qui est en difficulté. Il vient à son secours. Ce n'est pas son intérêt, en fait, de guérir devant tout le monde comme ça. Il le sait très bien. Il risque la lapidation, il risque que les Juifs lui tombent dessus de manière claire et il va risquer sa vie. Est-ce que nous, on risque nos vies? Est-ce qu'on risque quelque chose lorsqu'on parle de Christ? Non. Mais par contre, Pierre, risque quelque chose de faire ça. Mais il le fait parce qu'il considère ses intérêts comme quelque chose d'annexe, comme quelque chose de secondaire. L'intérêt, c'est qu'il y a quelqu'un par terre, qu'il a besoin d'être guéri. Et puis, il obéit. Il a sûrement toutes ces paroles que Christ a dites pendant toutes ces années. Et donc, du coup, il obéit à ça. Il sait qu'il va devoir prendre ce chemin et être dans un chemin d'obéissance. Il considère aussi l'important. Il reste près de Christ. Il aime son Dieu. Et ce que j'ai mis... Donc à la fin, c'est pour moi, vivre, c'est Christ. Et j'ai mis des mains tendues comme ça, qui sont en fait une proposition à chacun de se saisir de ces choses. Voilà. Je pense que si les choses ne vivent pas en nous, je pense que si les choses sont un petit peu figées à l'intérieur de nous, alors il faut organiser une crise de manière claire, positive, en se disant, voilà, j'ai un coup d'arrêt, j'ai un moment où il faut que je reconsidère les choses pour la vie. Pour la vie, parce que il y a marqué « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence. » C'est deux objectifs. Un, la première chose, c'est de vivre soi. Ça peut paraître particulier. Mettre les choses qu'on pourrait considérer comme étant en fait une vie dans notre condition et autres. Non, Dieu nous dit « Afin que tu vives, toi. » Et ta semence. Et ta semence, c'est quoi? Alors, comme je le disais, il y a d'autres traductions qui disent descendance, mais je trouvais le mot semence intéressant parce que dans ce qu'on met en œuvre dans nos vies, dans nos actes, dans nos paroles, il y a des choses que nous semons. Nous avons, et je finirai comme ça, nous avons dans nos vies deux sacs. Un sac contient des graines en vie, un sac des graines en mort. Quel sac nous utilisons pour parler, pour agir, pour faire les choses que nous faisons? Est-ce que nous savons être justes dans la manière dont nous considérons les choses, dont nous les trions? Est-ce que nous savons dans quel sac nous piochons? Et puis après, les choses ne dépendent plus de nous. Une fois qu'on a dit la parole, une fois qu'on a fait l'acte, alors l'autre fait son chemin. L'autre, voilà, et Christ fait pousser la graine. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est un ministère quotidien. Là, quand on va sortir juste à l'instant de cette salle, on va parler, on va agir. Et toutes ces choses, c'est un ministère quotidien dans lequel Dieu nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis le bon sac. Choisis de planter la bonne graine. Cette graine qui va prendre vie, faire du bien. » Être loin de l'amertume, loin de la crainte. Choisis la vie afin de vivre toi et ta semence.
Voilà.